Bonjour à tous, je suis Alice Haché, je vous souhaite la bienvenue dans l'empreinte. Nous allons essayer de comprendre ensemble comment les marques d'aujourd'hui s'engagent ou non pour notre planète. Chaque semaine, je reçois donc des start-upers, des PDG de grands groupes ou encore des directeurs de la RSE qui m'expliquent comment leur entreprise s'engage pour porter une révolution de l'impact sur notre planète. Et avant de commencer cet épisode, je souhaite vous présenter le nouveau partenaire de l'empreinte.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Dans ce nouvel épisode de l'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Vulfran de Richouf, le cofondateur de Panafrica, créé en 2015 la marque de basket fabriquée au Maroc et qui est bien plus qu'une simple marque de chaussures, parce que je crois qu'il y a tout un état d'esprit, mais tu vas m'en parler. Je suis ravie de t'accueillir dans l'Empreinte.
Bonjour, merci. Moi, je suis ravie d'être là avec toi, avec le sourire. Et je viens vraiment de bonne humeur parce que je rentre de vacances.
T'es parti où, si c'est pas discret?
Je suis parti...
Empreinte carboniquement parlant
empreinte carboniquement parlant, j'ai pas pris l'avion, mais je suis parti dans le sud en famille. Et puis après, je suis parti au bord de la mer Noire en voiture pour faire un road trip jusqu'à la mer Noire. Je fais souvent des road trips en voiture, souvent en Europe, pour découvrir des endroits où tu n'y aurais pas facilement en avion.
Mais d'ailleurs, ça part un peu l'état d'esprit de la marque?
Ouais, c'est un peu l'état d'esprit de la marque aussi. C'est,
comme
c'est
ta chemise marque, aussi, d'ailleurs, qui va avec la marque et tout.
C'est coloré, c'est gay, ça c'est plus du sud de la France. Mais mais l'état d'esprit de la marque, c'est une marque qui est ouverte sur le monde, on va dire, qui est ouverte sur le monde, qui n'a pas peur de faire découvrir des choses aux gens, qui n'a pas peur de confronter les cultures. Et c'est une marque qui avance. Et oui, effectivement, après, je pense qu'une marque, d'une manière générale, enfin, c'est ce que je pense, parce que c'est moi qui ai créé Panafrica, mais ça doit être le reflet aussi de qui tu es. Et il n'y a que comme ça qu'une marque est authentique et il n'y a que comme ça que tu arrives à avancer. En tout cas, moi, c'est ma philosophie. Et je pense que si j'avais créé une marque... purement marketing, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui, ou en tout cas pas avec le même état d'esprit ou la même fierté de construire ce que je construis au quotidien.
Et c'est moi, si je t'ai demandé aussi de venir dans l'empreinte, c'est que pour moi, c'est une marque qui se démarque, sans jeu de mots, même s'il y en a un, sans faire exprès, justement par son côté un peu unique, et puis finalement, presque entre guillemets, précurseur de toute cette nouvelle tendance de quête de sens sur les marques, d'éthique, etc.
Ouais, c'est vrai que c'est vrai que Panafrica, on s'est lancé, on a eu le début d'idée, on était en 2014-2015, on était un peu des précurseurs. Il y a eu d'autres marques avant nous, des grandes marques qui sont connues aujourd'hui, même comme des Patagonia que tu connais, et toi qui es dans ce domaine-là, tu maîtrises bien ce sujet-là. Donc il y en avait, mais pas tant que ça. Et c'est vrai qu'en 2015, quand on s'est lancé, moi je me souviens parce qu'on s'était lancé, donc c'était fin 2015, on s'était lancé en crowdfunding au début avec un lancement sur Ulule en financement participatif parce qu'on n'avait pas d'argent, on avait quitté nos boîtes pour monter Panafrica vraiment juste avec, on va dire, une idée un peu folle, mais c'était tout. Mais parfois, comme quoi, juste avoir la bonne idée et s'entourer des bonnes personnes, ça te permet de faire avancer un projet. Mais en tout cas, on était les seuls, quoi. Et à l'époque, c'était vraiment... moi, je me souviens, quand on s'est lancé, notre communauté, les gens qui nous ont soutenus sur Ulule, découvraient vraiment ce que c'était que la mode engagée, la mode éthique, la question de responsabilité sociale, responsabilité environnementale. Et même nous, on a grandi avec cette évolution et cette prise de conscience des consommateurs parce que la marque Panafrica évolue avec son temps. Au début, on était très axé, on va dire, mode social, solidaire même. Petit à petit, on a construit des engagements plus environnementaux aussi, mais on n'est jamais parfait et on se construit au fur et à mesure avec le temps. Mais c'est vrai qu'au début, on était un peu tout seul et qu'aujourd'hui... je regarde avec beaucoup d'attention toutes les marques qui se lancent et j'en connais beaucoup qui viennent nous voir pour des conseils et qu'on conseille volontiers. Aujourd'hui, il n'y a plus une marque qui se lance, une jeune marque qui se lance sans prendre en compte ce qui l'entoure d'une manière générale. Je pars au sens large. Après, c'est l'environnement, c'est d'autres choses, c'est les relations Nord-Sud, c'est l'aspect social.
Et puisque c'est produit au Maroc.
Ouais, nous, c'est produit au Maroc. Alors nous, on a un schéma qui est... assez particulier dans le domaine de la mode, parce qu'en fait, on travaille, on va dire, quasi intégralement nos matières sur le continent africain. C'est-à-dire, ça va de l'achat du coton à la transformation du coton, l'achat de nos tissus wax, l'achat de nos batiks, c'est-à-dire les tissus colorés qu'on met sur nos toiles. Tout ça, c'est fait entre le Burkina Faso, le Ghana, la Côte d'Ivoire. Et après, on assemble notre modèle au Maroc dans un atelier qu'on est allé voir au tout début, parce que quand on a monté la marque, comme je te le disais, on ne connaissait pas grand-chose. Donc, en fait, le premier truc qu'on a fait, une fois qu'on s'est dit « Ok, on veut créer une paire de baskets qui change de ce qu'on voit et qui a vraiment une histoire forte et qui porte des valeurs », une fois qu'on s'est dit ça, en fait, une fois que tu t'es dit ça, tu t'es rien dit quand tu es dans le domaine de la mode et de la création. Parce que derrière, en fait...
Surtout qu'à l'époque, c'est plus compliqué. Aujourd'hui, il y a plein d'infrastructures, qui se mettent en place pour encourager cette dynamique éthique responsable. Mais en 2015, c'était pas encore...
Il n'y avait pas grand-chose. On était un peu tout seul. Mais en fait, c'est un peu ce qui nous a aidés aussi. Parce qu'on a remonté toute notre chaîne de valeur pour aller rencontrer les gens. Donc vraiment, je crois que j'avais quitté, moi, un précédent boulot. Enfin, mon précédent boulot, mon seul job que j'ai eu en tant que salarié.
Tu faisais quoi ?
J'étais dans l'immobilier avant. Enfin, je suis géographe de formation et j'ai travaillé dans la promotion immobilière, mais plus en tant qu'urbaniste.
Tu passes de vendre des maisons. Un urbanisme, ouais, du coup, c'est un peu
donc
différent.
Plus, voilà, plus tout ce qui est architecture des quartiers, etc. Et je travaillais pour un grand groupe à Paris. Et mon associé bossait, lui, sur le continent africain. Il finançait des entrepreneurs. Donc, il a bossé dans différents pays, bah, au Maroc,
au Sénégal. Tu vas te demander aussi, du coup, pourquoi
en Côte d'Ivoire. Ouais, voilà, donc on
c'est connaissait... lui qui avait cette sensibilité, là.
Lui, il avait des sensibilités. Il connaissait bien. Il avait habité dans différentes villes, il aimait beaucoup. Et en fait, on s'était connus, nous, à la fac, à la Sorbonne. Et quand on a monté Panafrica, et moi, j'avais vraiment une fibre. Déjà, j'aimais beaucoup l'Afrique aussi. Après, c'est très large, mais en tout cas, l'Afrique de l'Ouest, j'aimais beaucoup. Pour y avoir voyagé, pour avoir lu des choses. Pour... Enfin, voilà, il y a tout un imaginaire, en tout cas, qui me donnait envie d'aller plus loin et de découvrir. Et je ne sais même plus pourquoi je te dis ça. Mais du coup, on a eu cette idée-là au départ de Panafrica parce que justement, moi, j'étais assez créatif. On voulait être dans le produit. C'est quelque chose qui nous plaisait de se dire, bah, en fait, on monte tout de A à Z. Et en fait, à un moment donné, notre produit, on va le voir porté par des gens dans la rue. Et ça, je pense que c'est ce qui nous a pas mal stimulé au début. Et ensuite, Hugues, mon associé, voulait garder quand même une attache avec le continent africain. Et en plus, on s'est dit, l'Afrique, c'est un continent formidable. Parce qu'il y a des tas de savoir-faire, il y a des tas de gens avec qui on peut bosser, qui bossent superbement bien. Il y a beaucoup de matières premières, et malheureusement très peu transformées sur place. Et c'était un peu l'idée de Panafrica de se dire, bah, en fait, on va rechercher des initiatives, des belles initiatives africaines, les connecter les unes aux autres pour en faire une paire de chaussures sympa et qui a du sens. Et c'était notre idée. Et du coup, en fait, quand tu travailles avec le continent africain, c'est pas... Alors maintenant, on le fait un peu plus, travailler par WhatsApp, par téléphone, etc. Mais en 2015, quand on a commencé, que tu ne connais pas grand monde, en fait, le seul truc à faire, c'est prendre ton sac et aller au Maroc, aller en Côte d'Ivoire, aller au Ghana, aller au Burkina, rencontrer des gens qui te font rencontrer d'autres gens qui te font remonter la filière du coton, qui fait qu'à un moment donné, tu vas trouver un partenaire de confiance avec qui tu vas pouvoir mettre en place quelque chose pour vendre tes chaussures. Et tout ça, ça s'est vraiment construit assez lentement. Et en même temps rapidement parce qu'on a pu lancer vite, mais ensuite toute la construction et la structuration de notre chaîne de valeur, de notre ce qu'on appelle la supply chain, moi j'appelle ça chez nous notre réseau de partenaires, ça prend du temps parce qu'il faut qu'elle se structure, et même une fois qu'elle est structurée, tu as des problématiques propres à certains pays dans lesquels on bosse qui font que tu es obligé de faire attention et tu es obligé d'aller sur place assez régulièrement pour prendre un peu le pouls et voir si tout se passe bien. Parce que parfois, tu as des problématiques, et même qui ne sont pas de notre ressort, enfin, des problématiques politiques dans certains pays, comme le Burkina Faso, où les premières années, tu y vas facilement, tu peux y aller tous les deux mois, et qu'aujourd'hui, on n'est plus autorisé à y aller. Ou en tout cas, on peut y aller, mais on prend nos risques. Voilà. Donc c'est parfois un peu compliqué, mais c'est ce qui fait qu'on a, même après 50 boîtes, toujours l'impression d'être dans une aventure formidable et d'être toujours dans l'aventure. Et moi,
vous devez être challengé parce qu'il y a quand même de nouvelles marques qui émergent. Comment est-ce que vous faites aujourd'hui pour exister ? Et puis, je pense que le consommateur est devenu beaucoup plus acteur de ses achats. Il a besoin, je pense qu'il vous pose des questions aussi sur la traçabilité, les matières, etc.
Ouais, on sent. Alors, c'est marrant parce que plus tu es une marque engagée, plus tes consommateurs, forcément, sont engagés. Donc, effectivement, c'est
ça,
pas.
C'est vrai. Non,
on
c'est
commence
vrai.
À faire
et
un éduquer, petit quelque chose.
Engagé et éduqué. Donc,
nous, tous les gens qui viennent nous voir, même ici, on a un petit showroom dans le centre de Paris. Les gens qui viennent nous voir, du coup, ils posent beaucoup de questions. Après, nous, on est droit dans nos bottes parce que pour le coup. On sait comment répondre, on sait quoi répondre, on sait quelles sont nos limites aussi. Et y a des
c'est
moments,
quoi tes limites d'ailleurs ?
Nos limites, il y en a plein, mais j'en prends une particulière. C'est je pense, les émissions de CO2 liées au transport de marchandises. Même si on ne fait aucun transport par avion, par exemple, tu as quand même de la matière qui transite de Côte d'Ivoire vers le Maroc, vers la France. Un atelier logistique qui est à Chambéry, alors, c'est vrai pour toutes les marques. Mais nous, on le dit plus facilement.
Oui.
Donc, cette problématique-là, problématique environnementale ou éthique liée à l'utilisation du cuir, quand tu fais du basket, quel que soit ton cuir, qui soit
et
tannage low chrome ou.
Du cuir végétal, non, trop cher ou pas
non,
envie.
C'est pas trop cher. C'est techniquement, on avait parlé avec certaines marques qui avaient fait des essais, qui s'étaient avérés non concluants. Moi, j'aime pas trop cette dénomination de cuir végétal.
Oui, il faudrait l'appeler autrement, matière végétale.
Et puis pour moi, c'est plus compliqué que ça. Du cuir aussi, une basket en cuir, c'est une basket qui va durer aussi plus longtemps. Il faut le voir aussi comme ça. Donc,
la durabilité.
La durabilité
mais
du produit.
Mais justement, utiliser pourquoi pas du cuir qui aurait été... J'ai reçu des marques comme ça qui n'utilisaient que du cuir qui allait être jeté ou je ne sais plus.
Ouais, alors nous, ce qui est sûr, c'est que depuis le début, on a considérablement réduit. Déjà, on est une marque assez peu consommatrice en cuir parce qu'on a beaucoup de modèles de baskets qui sont des modèles vegan, qui sont des modèles en toile et ça représente plus de 50% de nos collections. Donc, le cuir ne représente pas non plus une grosse partie de nos collections et l'utilisation de matières premières qu'on fait, notamment parce qu'on ne source pas notre cuir en Afrique, sur le continent, mais en Italie, pour le coup, pour avoir un cuir vraiment de bonne qualité.
Je suis italienne, je connais le cuir italien.
Voilà, mais c'est une matière qu'on n'utilise pas beaucoup, c'est une matière pour laquelle on réfléchit parfois à faire différemment. On a utilisé, on a fait des protos avec du cuir, ce qu'on appelle du cuir d'ananas, de végétaux, etc.
Et pas un truc avec du cuir de champignon que j'ai vu récemment.
Ouais, il y a pas mal de choses. T'as ce qu'on appelle cuir de champignon, cuir d'ananas, cuir de raisin.
Cuir de coco.
Après, moi, parfois, j'ai un peu de mal avec toutes ces alternatives qui... selon moi, sont des alternatives pas pérennes. C'est-à-dire que tu continues quand même à créer de la matière. Pour moi, qui dit créer de la matière, c'est que tu as des usines qui créent ton cuir.
Oui, puis en fait, finalement, tu épuises des ressources.
Ouais, voilà.
En fait, je suis assez d'accord avec toi. Et c'était une réflexion que j'avais, je crois, encore hier. Je réfléchis à beaucoup de trucs comme ça. Et moi, je serais plus sur de l'upcycling. Tu sais, on peut te ramener... Est-ce que c'est un truc à envisager, je ne sais pas, ces idées-là, où on peut te ramener des vieilles paires et tu reprends la matière, tu peux... Il y a beaucoup de personnes qui prennent, qui reprennent les anciens...
Ouais, nous, c'est cool que tu en parles et je t'en remercie. Pour moi, c'est vraiment pour moi le sujet d'actualité pour Panafrica et le futur pour la mode, selon moi. Au-delà de toutes les initiatives qui sont très bonnes et je ne suis pas en train de critiquer d'effectivement alternatives à différentes matières qui vont être moins polluantes.
Mais sur des collections...
Utiliser du chanvre à la place du coton, etc. Ouais. C'est des choses qui sont très bien et qui font quand même avancer dans le bon sens, selon moi. Après, pour moi, le futur demain de la mode de Panafrica, c'est de savoir comment... Et on s'est posé la question comme ça il y a 2-3 ans à peu près. C'est tu grandis, nous on est une marque qui grandit, tu fais de la croissance chaque année, et au bout d'un moment donné, tu te dis en fait, on grandit, on prône quand même un mode de vie plus responsable, et en même temps, on produit plus, donc on pollue plus, et quoi qu'on fasse, c'est-à-dire même si je suis assez transparent sur ce que je fais, éthique,
non, mais j'aime,
et engagé,
c'est ça.
Quand tu passes de 1000 à 2000 clients, tu produis 1000 paires une année, 2000 paires l'année suivante, 10 000 l'année d'après, 50 000 ensuite, et du coup, ça va vite. Et du coup, pour moi, le sujet était là il y a 2 ans quand on s'est posé la question. On s'est dit, en fait, si on continue comme ça,
on va perdre
on va droit dans le mur, on perd l'ADN de la marque, on perd un peu les engagements de départ. Donc, on a créé un projet, mais au début, c'était vraiment un projet qui était monté de rien. C'était de se dire, en fait, ce qui serait bien, c'est que nos clients qui nous ont acheté des paires il y a 3 ans, qu'ils nous les renvoient et qu'on puisse en faire quelque chose. Donc, c'est parti comme ça. De ce « on va en faire quelque chose », après, c'était on a monté un partenariat avec une...
Vous allez la retrouver en lampe.
Une jeune boîte qui s'appelle Zero Waste Shoes, qui, en gros, reconditionne les produits qui peuvent être réconditionnés. Donc, ça, c'est top, parce que tu as des paires de baskets que tu vois à Panafrica qu'on reçoit, qui sont vraiment... Alors, je parle pas de posture déchirée, mais tu vois, un peu abîmée, la semelle un peu dégueulasse. Enfin voilà, le truc qui a été porté pendant 3 ans. En fait, tu te rends compte qu'avec un peu de savoir-faire, un peu de boulot, des produits naturels, du dentifrice, des choses pour blanchir la semelle, tu changes tes lacets, tu fais des choses, tu remets une forme dans la chaussure, tu te rends compte que ces chaussures-là, en fait, elles peuvent trouver preneur sur un marché de seconde main. Donc, on travaille derrière avec des boutiques de seconde main, avec des associations. On travaille là avec Oxfam depuis 1 an et demi, justement, pour la revente de ces produits-là. Et donc, ça, c'était le premier truc, mais on l'a mis en place petit à petit. Et là, on a créé, il y a un an, maintenant un peu plus d'un an, la première basket consignée et recyclable, qui s'appelle Arusha, que je porte au pied.
Je regarde en même temps.
Une sorte de running Panafrica, qui est une paire de baskets qui a été conçue, qu'on a lancé sur Ulule il y a 1 an et demi. On a fait vraiment un carton. C'était en plein premier confinement. On a eu un peu peur d'ailleurs parce que c'était pas le meilleur moment du lancement. Mais bon, à un moment, tu peux rien. Comme tout le monde, on s'y attendait pas.
Puis là, maintenant, on court vers l'imprévu tout le temps. Donc, voilà. Je pense que...
Et en fait, on s'est dit, OK, parce que quand on avait monté ce programme-là de renvoyer, on disait aux gens, renvoyez-nous nos paires. Mais en fait, tu te rends compte que les gens ne te renvoient pas leurs paires parce que ça les
c'est
emmerde.
Et puis c'est exactement ça. C'est presque la logistique qui.
C'est ça. C'est la logistique. Et puis, ils ne voient pas forcément davantage. Donc, on s'est dit, OK, maintenant, tous les produits qu'on vend, on intègre une consigne au prix de vente pour faire un peu comme faisaient des grandes marques même de lait, de soda à l'époque.
Même quand on va là dans des bars,
ouais,
qu'on a un truc
tu
en
laisses
verre,
ton gobelet en plastique.
Ils disent, tiens, tu payes 2 euros, mais tu nous ramènes la consigne et tu les
récupères. Pareil, chez Panafrica, t'as une consigne de entre 5 et 7 euros par produit que le client récupère quand il nous renvoie son produit en fin de vie. Et du coup, la paire de baskets derrière, soit est reconditionnée via le circuit dont je t'ai parlé, soit va être recyclée dans une usine qu'on a, avec qui on a monté un partenariat au Portugal, qu'on est allé voir, qui recycle la paire et qui va notamment recycler les semelles de nos anciennes chaussures pour faire des nouvelles semelles à partir des anciennes semelles de Panafrica. Donc, ils vont être...
Des nouvelles pour Panafrica.
Voilà, pour Panafrica,
en fait,
oui.
Finalement, les anciens produits vont se retrouver dans le nouveau, donc tu vas émettre moins de matières premières.
Voilà, et la boucle est bouclée, en fait, encore une fois.
C'est pas parfait, mais
c'est pas parfait. Tu recycles, tu renvoies tes produits dans une usine, etc.
Mais calcules.
Je trouve que déjà, tu es dans un schéma où tu réutilises de la matière que tu as à un moment donné payée, que tu as utilisée, que tu as consommée. Ben, en fait, tu vas la reconsommer et peut-être demain indéfiniment. Alors, on n'est pas encore capable demain de recycler des semelles qui sont à partir de produits recyclés. On y viendra peut-être. Mais en tout cas, je trouve que ça permet d'avoir vraiment une économie circulaire qui est pour moi l'avenir de la mode. Et c'est en essayant des choses comme ça, en se plantant aussi, parce que je veux dire que là, on a 300 paires de chaussures dans nos bureaux à Paris. Il y a des paires, on ne savait pas trop quoi en faire. C'était le début. Mais donc, on va se planter, on va essayer des choses. Mais je trouve que c'est en essayant aussi qu'on y arrive et qu'on ouvre la voie pour les autres. Et pour moi, c'est aussi... important, tu disais tout à l'heure, Panafrica, vous étiez en quelque sorte aussi des précurseurs sur cette question-là. J'ai envie demain qu'on soit des précurseurs sur la question de la mode circulaire et on y travaille vraiment beaucoup et on a un nouveau site internet qui arrive à la fin du mois, justement avec une page dédiée à nos anciens clients.
Donc alors peut-être que quand il sera diffusé l'épisode, il sera déjà mis en ligne.
Il sera peut-être déjà mis en ligne, donc très bien, parce qu'il y aura une page vraiment dédiée à ce programme-là, où les clients n'auront plus qu'à rentrer un code barre pour savoir la paire de chaussures qu'ils ont fait, qu'ils auront un bon de retour gratuit pour renvoyer la paire chez nous, qu'on s'en occupe derrière, etc. Parce qu'aujourd'hui, en termes de logistique, c'est vraiment nous qui le faisons, quoi. C'est nos équipes, les clients nous écrivent, on leur dit renvoyez-nous, venez nous la déposer au bureau, mais ce n'est pas encore très organisé.
Et dans la mode, et même dans beaucoup d'industries, il y avait un problème aussi de logistique, et la précommande répondait beaucoup à ce problème de logistique de stock ou alors d'invendu. Est-ce que toi, tu as des problèmes d'invendu ou finalement, la précommande n'a pas de sens pour vous puisque vous écoulez tout ?
Je pense que la précommande est un bon moyen, effectivement, de moins produire, en tout cas de produire à la demande. On l'a fait, nous, au lancement de la marque. Donc, en 2015, c'était quand même moins courant. On l'a refait là pour Arusha, qui était notre première basket consignée et recyclable, parce que justement, c'était un projet particulier. On avait besoin de sentir le soutien des gens pour faire avancer ce projet-là. Et on avait besoin un peu de financement au-delà de juste l'achat des paires de chaussures. Et ça, pareil, on avait vendu 1500 paires de chaussures, donc c'était un gros succès. Moi, je trouve la précommande, c'est un super moyen. On le fait assez régulièrement, même sans que ce soit sur des plateformes de crowdfunding, mais sur des exclusivités.
C'est ça, c'est sur des lancements ponctuels.
Voilà, sur lesquels nous, avec le sourcing qu'on a en Afrique, parfois, on a quand même des achats qui sont un peu limités pour faire un nombre de chaussures. Je te prends une toile qu'on trouve jolie, qui est en Côte d'Ivoire. On ne va pas avoir la possibilité d'en faire 1000 paires. Donc, on va faire 100 paires, on va dire c'est de la précommande, on va faire uniquement ce qui... Voilà. Après, toutes les marques ont des problèmes de stock. On en a aussi. Au bout d'un moment, t'en as pas au début parce que c'est des petites quantités. Et quand tu commences à avoir des quantités un peu plus importantes, t'en as plus. Moi, pour moi, le principal problème pour nous, hein, pour Panafrica, c'est plutôt le wholesale. Donc tout ce qui est la vente chez nos distributeurs, qui nous oblige à un moment donné à faire des calculs au doigt mouillé en début de saison, sans savoir exactement ce que les acheteurs vont acheter, ce que les clients finaux, donc les consommateurs en magasin vont plébisciter ou pas, et du coup parfois tu te plantes, et c'est ça qui crée à un moment donné des surstocks, parce que tu vas te dire bah non, on est présent par exemple aux Galeries Lafayette, chez Altermundi, qui représentent de nos gros clients, ils vont nous commander des paires, et de temps en temps les écoulements ils sont pas top, c'est-à-dire qu'un acheteur peut se planter, se dit bah là c'est la mode du rose, nous on va faire une super basket, tout le monde y croit, et en fait tu te rends compte que c'est pas un best-seller, et du coup c'est un produit auquel tu as pas mal cru en début de saison que tu as produit.
Moi, je sais que c'est un petit peu extrême, mais je pense que la précommande peut être l'avenir pour l'industrie globalement. C'est-à-dire que le client soit éduqué à avoir moins, à attendre ce qu'il achète, à mettre le prix, peut-être quelque chose de plus cher qu'il attend un peu plus. Rééduquer la personne un peu plus minimaliste. Enfin, quand on s'achète une paire, le but n'est pas juste de l'avoir comme ça. Tiens, je veux une paire, je l'ai maintenant. Enfin, pour moi, c'est de la masse consommation et on veut quand même inciter. J'incite personne à arrêter complètement de consommer, mais à consommer raisonnablement. On parle de raison, d'équilibré. Pour moi, peut-être que la précommande, c'est aussi je désire cette paire. C'est comme je désire un beau voyage. Je ne vais pas arrêter de prendre l'avion, mais je vais le planifier, je vais l'anticiper. Et je le ferai et je le savourerai d'autant plus.
Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que les gens et les gens qui nous écoutent réfléchissent beaucoup plus à leur acte d'achat. Et en fait, il faut acheter, on le dit souvent en enfance, des portes ouvertes, mais acheter moins, mais mieux. Et je suis complètement d'accord avec toi.
En plus, l'aimera d'autant plus quand on la recevra la paire, moi, je trouve.
Bah, moi, je trouve ça génial, en fait, d'attendre quelque chose.
À Noël, regarde, t'as beau avoir un truc pourri, mais en fait, t'es juste contente que ce soit Noël et t'attendais ce moment-là. Quoi.
Non, mais même moi, pour Panafrica, il y a des paires que je vois un an et demi avant qui sont des prototypes et je les attends un an et demi. Et en fait, je suis super content parce que moi, je les ai vus bien avant, déjà au dessin du stylisme, etc.
Tu dis,
ça va être génial. Après, tu vois sortir, les prototypes sont jamais à ma taille parce que je fais un 44. Et donc, moi, je suis obligé d'attendre les collections. Donc, un an et demi après, je suis content de l'avoir. Mais les gens devraient faire pareil. C'est-à-dire, il faut attendre.
Tu sais, c'est compliqué, je pense. Enfin, moi, ce serait un peu, c'est hyper utopiste ce que je te dis, mais je pense que tant qu'il y aura autant d'offres, c'est comme les grandes surfaces, tant que tu auras tous les produits qui viennent de je sais pas où, bah forcément, qu'est-ce qu'on va se contenter de l'ultra local. On a trop de choix maintenant et je pense que c'est peut-être pour ça que c'est compliqué. Mais bah, encore une fois, tant que les acheteurs aussi seront là pour payer, c'est les deux. Je pense que c'est un équilibre.
La précommande, c'est vraiment, je pense, l'avenir de la mode. Et nous, je ne peux pas tout dévoiler de Panafrica
pour les prochaines années,
mais on y vient beaucoup, on va y venir. La seconde vie des produits, la seconde main, tout ça, c'est des sujets sur lesquels se penchent beaucoup de marques. Chacun réfléchit à des choses. Il y a des choses qui fonctionneront pas, il y en a d'autres qui fonctionneront bien. Il y a des fonctionnements qui sont encore un peu avant-gardistes pour le client. La précommande, on a beau dire, alors nous, on est dans un environnement. Enfin, moi, je sais, parce que je suis dans un environnement forcément assez engagé, où je rencontre que des entrepreneurs engagés, que
donc
des gens
eux,
qui me font intervenir à des conférences. Là, j'étais encore au Who's Next sur la RSE. Et donc, du coup, t'entends parler de ça toute la journée et t'es parfois un peu déconnecté de la vie réelle des gens et de, en fait, que eux, déjà, rien que pour eux, qu'est-ce que ça signifie la mode éthique, qu'est-ce que c'est que l'engagement. Si tu leur parles de précommande, déjà, ça, c'est un peu plus lointain. Et du coup, je pense qu'il y a quand même encore un peu de temps avant qu'on y arrive.
Peut-être une forme d'éducation aussi.
Une forme d'éducation, et que ça va venir petit à petit, mais c'est sûr que c'est en train de bouger, parce que moi, je vois même mes parents qui n'avaient pas du tout de considération écologique, sociale, etc., qui sont aujourd'hui hyper fiers de voir ce qu'on fait, et qui, du coup, s'intéressent beaucoup plus à cet environnement-là. Et c'est marrant parce que c'est des gens qui, enfin, ce sont des baby boomers, comme on dit, qui ont connu la société de consommation, les grands supermarchés, etc. Donc c'est cool de voir que ça change et que ça évolue. positivement.
Je mets en place depuis quelque temps une question de l'auditeur, mais je crois qu'en fait, on y a déjà répondu. Tu vas me dire si on y a déjà répondu, mais je crois. Donc, un de mes auditeurs me demandait quid de la durabilité quand on vend un produit. C'est-à-dire, c'est un peu antinomique le fait de se dire je veux que le truc dure longtemps, alors qu'on parlait d'obsolescence programmée ces dernières années quand on parlait de plein de trucs, pour que les gens aient à racheter. Sauf que là, on doit être éthique, durable, mais vendre. C'est quoi
c'est ça, en fait, c'est vraiment c'est une super bonne question et c'est limite une question philosophique pour des entrepreneurs sociaux.
C'est où le juste milieu, quoi ?
Nous, on se le pose beaucoup et en fait, aujourd'hui, on considère, contrairement à beaucoup de marques, qu'on n'a pas besoin déjà de grandir à tout prix pour être heureux. On considère qu'on a atteint là...
Tant que tu peux faire tes road trips, toi, finalement.
En fait, tant que je peux garder une sorte de liberté... qu'on peut continuer à s'amuser aussi. Parce qu'en fait, nous, Panafrica, on n'a aujourd'hui aucun investisseur. On s'est autofinancé depuis le début. Donc, on continue à être libre, on continue à s'amuser. On peut tester des choses sans se faire engueuler par des investisseurs qui vont chercher la rentabilité. Et du coup, j'ai envie de dire qu'on vit nos meilleures années d'entrepreneuriat. Et en plus, on se dit... mais là, après, on est plusieurs dans la marque, mais il faut que les salariés soient OK avec ça aussi. Mais c'est de se dire, on atteint un certain... niveau où en fait grandir peut vite nous énerver et faire en sorte que en fait ce soit contre-productif par rapport à ce qu'on porte comme image et comme engagement. Donc ça c'est une des premières réponses, je trouve, c'est de pas grandir pour grandir, ou en tout cas de grandir à son rythme. Et puis ensuite, la question, effectivement, je vais pas revenir dessus parce qu'on en a parlé, c'est de te dire une fois que tu as vendu ton produit, comment ce produit là ne termine pas en déchet, mais comment ce produit là la marque
peut créer de la valeur
se responsabilise, et c'est la marque qui doit se responsabiliser selon moi pour créer et recréer de la valeur avec le produit qu'elle a créé la première fois. Et ça, c'est un second axe de travail.
J'aime bien parce qu'on a la même philosophie de vie, la liberté, le fait de ne pas vouloir toujours plus, qu'à un moment la quête c'est le bonheur, je crois, et quand on est épanoui dans ce qu'on fait, qu'on est libre en plus et en plus qu'on a du sens et qu'on donne du sens à ce que l'on fait, je crois que finalement tu as trouvé un bon équilibre de vie.
Ouais, en tout cas je t'avoue que les premières années de Panafrica c'était dur, tu bosses beaucoup, tu montes ta boîte, t'as toujours des merdes et tout, donc ça, moi je suis pas langue de bois, donc je cache pas la vérité, et parfois c'est dur et c'est encore dur aujourd'hui, mais ce qui est vrai c'est que en tout cas je me sens beaucoup plus aligné aujourd'hui qui a 7 ans 8 ans dans ce que je fais, et que aujourd'hui quand j'arrive au bureau le matin, quand on est tous au bureau, que je vois mes équipes qui sont contentes de bosser, qu'il y a une énergie, que nous-mêmes, on est encore comme des gamins quand on reçoit des nouveaux produits, qu'on a des nouveaux projets à monter, et qu'en plus de ça, nous, on incube pas mal de jeunes projets engagés, justement, on arrive à un moment où on a aussi envie de transmettre à des jeunes projets, et que je vois tout ce petit monde-là discuter, créer des synergies, des collabs, des concours communs sur les réseaux sociaux, etc. Je me dis, finalement, on arrive à faire quelque chose qui est plutôt pas mal, et ça me rend fier tous les matins, et c'est ce qui me motive. En grosse actu, là je pars au Ghana, on va voir un de nos partenaires sur place, on va trouver des usines de fabrication, on est en train de travailler sur des lignes, des looks mixtes en prêt-à-porter pour retranscrire un peu l'ADN des marques sur autre chose que de la chaussure, et c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis longtemps, et on va au Ghana notamment pour ces raisons-là. Donc voilà, ça c'est des plus gros projets qui devraient sortir d'ici le printemps prochain et sur lesquels on travaille pas mal et qui nous permettent de nous ouvrir de nouvelles voies aussi.
Merci d'être venu jusqu'à moi.
Merci
même si
beaucoup.
Je sais que tu n'es pas loin du tout. Au moins, je t'ai pas fait dépenser ton empreinte carbone.
Non, c'est sûr. Merci, c'était génial en tout cas.
Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast ainsi que chaque semaine sur thegood.fr. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. À très vite.